Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles, allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et se fera une création nouvelle, et vous renouvellerez la face de la terre. Prions, Dieu, qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse de divine consolation. Par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils, du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, donc nous avançons dans la méditation sur la passion de notre Seigneur. Dans l'évangile de Saint Matthieu, nous en sommes donc toujours dans le chapitre 26 de Saint Matthieu, verset 50. 51, 52, 53 et 54 sur le polycopier, donc qui couvre les textes des chapitres 26 à 28, ces trois derniers chapitres de Saint Matthieu, à la page 13. Donc je vous rappelle les versets que nous méditons à partir des pères. Voici qu'un de ceux qui étaient avec Jésus, étendant la main, tira son épée, frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille. Alors Jésus lui dit, « Remettez votre épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Pensez-vous que je ne puisse pas prier mon Père qui m'enverrait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliront les Écritures qui annoncent qu'il doit en être ainsi ?» Alors sur le plan technique, qu'est-ce que c'est qu'une légion? Donc les Pères nous expliquent qu'une légion chez les anciens, chez les Romains, était composée de 6000 hommes. Les 12 légions, par conséquent, formeraient un total de 72 000 anges, correspondant au nombre des nations qui se dispersèrent après la division des langues. Enfin, je pense qu'en fait, le nombre des nations qui se dispersèrent après la division des langues, c'est plutôt 72 que 72 000. 72 000, ça me semble quand même un peu beaucoup. Donc, je pense que c'est 72. Donc, c'est le verset 53. Pensez-vous que je ne puisse pas prier mon Père qui m'enverrait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Donc, cette indication nous montre la toute-puissance de Dieu. C'est pour cela que Dieu parle de ces 12 légions d'anges. Pour nous expliquer aussi que notre Seigneur Jésus-Christ soumet volontairement son humanité notre humanité à sa divinité. Donc, puisqu'il pourrait mettre immédiatement sur place devant lui 12 légions d'anges, dont 72 000 anges pour le protéger, cela prouve qu'il est volontaire pour sa passion. Notre Seigneur Jésus-Christ ne va pas à la passion, je dirais, comme un esclave condamné à mort et qui y va parce qu'il ne peut pas faire autrement. Donc, ce texte nous explique que notre Seigneur Jésus-Christ pourrait très bien éviter la passion. Mais volontairement, il accepte la passion. Notons que notre Seigneur Jésus-Christ étant Dieu, il pourrait nous sauver d'une autre façon s'il le voulait. Il aurait pu nous sauver en nous offrant une marguerite tous les matins. C'était possible, en soi. Dieu peut tout. Et le bon Dieu a voulu nous sauver par sa passion. Pourquoi? Parce que justement, la passion est la plus belle preuve d'amour que notre Seigneur Jésus-Christ peut nous donner. Pour nous prouver qu'il nous aime à un degré absolument invraisemblable. Quand on voit notre Seigneur Jésus-Christ qui souffre l'agonie au jardin des Oliviers, quand on le voit aller à travers les souffrances de la flagellation, le couronnement d'épines, le portement de la croix, la crucifixion, la mort sur la croix, on comprend à quel point il nous aime. S'il nous offrait simplement une marguerite tous les matins pour nous sauver, on dirait, bon, d'accord, on se sauve par la marguerite du bon Dieu d'homme tous les matins, mais on ne comprendrait pas l'amour du bon Dieu pour nous. Par contre, quand on voit quelqu'un qui est innocent et qui accepte de prendre sur nous le poids de nos péchés, alors on comprend l'amour pour nous qu'il a en tant que Dieu pour les pécheurs, et pour transformer les cœurs des pécheurs en un cœur de pécheurs repentants. Imaginez, encore une fois, c'est un exemple que je donne souvent, mais ça aide à comprendre. Imaginez quelqu'un qui est en prison pour plusieurs années, et quelqu'un vient à la porte et dit au gardien, ben voilà, je vais prendre sa place en prison. Vous le faites sortir et moi je vais à la prison, en prison à sa place. C'est exactement ça. Alors, qu'est-ce que dit notre Seigneur? C'est notre Seigneur, après que Saint-Pierre ait coupé l'oreille droite de Malchus, le serviteur du grand prêtre, lui dit, remettez votre épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Le Christ, dit Saint-Hilaire, demande à Saint-Pierre de remettre son glaive au fourreau, car il voulait non pas tuer avec un glaive, mais avec les mots de sa bouche. Donc, les deux glaives sont expliqués par Saint Ambroise mystiquement comme étant les deux testaments grâce auxquels nous sommes armés contre les ruses du diable. Ces deux glaives, allégoriquement, représentent aussi le double pouvoir de l'Église, le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel. L'arme aussi symbolise l'excommunication par laquelle un homme est retranché de l'Église. L'utilisation d'un glaive, justement, nous montre à quel point la vie du catholique est une vie de combat. Nous sommes des soldats. Nous devenons des soldats du Christ par le sacrement de confirmation. Il y a d'autres sens qui sont donnés par les pères. D'après saint Ambroise, ce glaive dont parle notre Seigneur Jésus-Christ, remettez votre épée à sa place, son glaive à sa place. Ce glaive doit être compris comme le martyr, le glaive de la souffrance, par lequel on peut rejeter le corps, l'acquérir pour soi-même la couronne du martyr en se séparant du bourbier du corps. Le glaive utilisé par saint Pierre est toujours préservé, disent les pères, et vénéré par les fidèles. Je ne sais pas où, mais c'est toujours dans la tradition de l'Église. La vie spirituelle est un combat. Alors, certes, comme ce n'est pas un combat d'ordre militaire, notre Seigneur Jésus-Christ dit à cause de ça, remettez votre épée à sa place. Mais c'est un combat quand même. Ce qu'on appelle le combat spirituel, la vie spirituelle est un combat spirituel. Pour ceux qui n'ont pas lu, je vous conseille beaucoup le livre de Ernest Cupoli qui s'appelle Le combat spirituel. Justement, qui montre à quel point nous sommes des soldats du Christ. En face de nous, nous avons à lutter non pas contre la chair et le sang, nous avons à lutter contre des puissances spirituelles. N'oublions pas que le démon est un ange. Un ange qui a gardé l'intelligence angélique, un ange qui a gardé la compréhension des choses par intuition, à cause de son système de connaissances. Il est toujours un ange, c'est un ange des ténèbres, un ange mauvais, mais c'est toujours un ange. Donc il garde l'intelligence des anges et va utiliser son intelligence prodigieuse pour lutter contre les catholiques. Donc c'est presque, si vous voulez, une épée de Damoclès au-dessus des mauvais anges. Ils savent que leur pouvoir, en quelque sorte, sur les anges, va s'arrêter le jour où le dernier homme qui meurt en état de grâce va au paradis. C'est-à-dire le jour où les places laissées au paradis par la chute des anges, je vous l'ai déjà expliqué souvent, c'est l'explication de Saint Bonaventure, qu'un tiers des anges s'est révolté en suivant Lucifer contre Saint Michel et les bons anges, et donc il y a un tiers des places qui étaient laissées libres par la chute des mauvais anges au ciel, et donc à chaque fois qu'un homme meurt en état de grâce, après son temps en purgatoire, il va utiliser une des places laissées libres par les mauvais anges. Le jour où la dernière place libre est utilisé par le dernier homme qui vient occuper cette dernière place, ce jour-là, c'est la fin du monde. Et nous disent les pères, et cette fin du monde indique la fin du pouvoir du démon. À ce moment-là, il y aura plus que trois endroits, si vous voulez, les limbes, bon, qui sont un petit peu un endroit spécial pour tous ceux qui sont morts sans baptême et sans faute de leur part, sans aucun péché. Ce sont surtout les enfants morts sans baptême, les bébés morts sans baptême, tous les millions d'enfants qui sont coupés en rondelles dans le ventre de leur maman par avortement seront dans cet endroit-là. Il y a les gens, donc les limbes, l'enfer et le ciel. Il n'y aura pas d'autre endroit, puisque le purgatoire va disparaître. Le purgatoire, c'est une exception. Le purgatoire est dans le temps. Les limbes, c'est dans l'éternité. L'enfer, c'est dans l'éternité. Le ciel, le paradis, c'est dans l'éternité. Mais le purgatoire, c'est dans le temps. Parce qu'on est dans le purgatoire pour une certaine période de temps déterminée par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, comment ça se passera? Bon, c'est un peu mystérieux, mais vraisemblablement, au moment de la fin du monde,
il y aura une purification radicale, si vous voulez. À ce moment-là, le purgatoire va disparaître. Et ce qui va disparaître immédiatement au moment de la fin du monde, on ne sait pas, là, l'Église ne s'est jamais prononcée à ma connaissance sur ce domaine-là, mais le purgatoire n'est pas décidé à durer. Donc les gens du purgatoire vont tous aller au ciel après la période de purification terminée. Alors est-ce que cette période de purification va durer dans le temps? Ça, on ne sait pas, après la fin du monde. Mais il pourrait y avoir une augmentation de l'intensité de cette purification, une espèce de feu dévorant qui va purifier d'un seul coup tous ceux qui sont encore au purgatoire. Et à ce moment-là, il n'y aura plus que les gens au ciel, dans l'éternité bienheureuse, et malheureusement les gens en enfer, dans l'éternité malheureuse. Encore une fois, dans les limbes, c'est un cas spécial. Des gens qui, par la miséricorde de Dieu, ignorent tout de l'existence de Dieu, donc ne souffrent pas de son absence. Et ceci nous montre que la vie sur la terre est un combat. On ne va pas au ciel en carrosse, on ne va pas au ciel en tapis roulant. Contrairement à ce qu'on nous enseigne dans l'Église de Vatican II. Alors, selon Origène, les Juifs, en lisant et écoutant les Écritures, ont perdu leur oreille droite. Donc, on revient à des choses qu'on a déjà traitées là, avec les Pères. Ils ont perdu leur oreille droite, la vraie compréhension des choses célestes. Donc, rappelez-vous ce qu'on a expliqué. Donc, l'oreille gauche, c'est le monde. L'oreille droite, c'est le paradis, c'est le ciel. Et donc, quand on utilise notre oreille droite, on entend les choses du ciel. Quand on utilise notre oreille gauche, on entend les choses de la terre. Et en coupant l'oreille droite, l'oreille qui a été coupée, c'est précisé dans un autre évangile que c'est l'oreille droite du serviteur du grand prêtre Malchus qui a été coupée. Donc, saint Matthieu, il donne pas la précision. Il dit simplement, voici qu'un de ceux qui était avec Jésus, étendant la main, tira son épée, frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille. Même pas donné son nom. En fait, on sait que son nom c'était Malchus, c'est l'oreille droite qui a été coupée. Eh bien, quand on perd l'oreille droite, on n'est plus capable d'écouter le bon Dieu. On n'a plus d'oreille droite et donc on va écouter avec l'oreille gauche et l'oreille du monde. Eh bien, pour aller au ciel, qu'est-ce qu'il faut? Il faut boucher l'oreille gauche et commencer à tendre l'oreille droite pour entendre justement la parole du bon Dieu. Dit Origène, ça nous donne la vraie compréhension des choses célestes. Et donc, il donne deux exemples. Moïse, on a déjà vu ces exemples, après avoir frappé l'Égyptien qu'il a tué, fut fait chef de la synagogue. Et Saint-Pierre, après avoir mutilé Malchus, devint la tête de l'Église. Donc, mystiquement, la blessure et la guérison de Malchus, donc le serviteur du grand prêtre, représente le retour à la liberté de Malchus, car il retrouve en même temps le oui. Le Christ guérit donc Malchus dans son corps et dans son âme. C'est une double guérison. Il lui remet l'oreille en place. Il va lui remettre son oreille en place. D'ailleurs, je vous ai déjà dit, les évangiles vont se compléter. Là, il n'est même pas dit que dans cet évangile de saint Matthieu, ce sera dit dans d'autres évangiles, que notre Seigneur va guérir, va prendre l'oreille coupée, la nettoyer, était tombée dans le sable, et il la remet en place. Ici, ce n'est pas dit dans l'évangile selon saint Matthieu. Et donc, en lui rendant l'oreille droite, il lui donne le pouvoir de nouveau d'écouter les choses du ciel, au lieu d'être omnubilé par les choses de la terre. Vous voyez ? On peut expliquer mystiquement la confession, c'est un peu comme ça. Par la confession, donc j'étais en état de péché mortel, étant en état de péché mortel, j'appartiens au démon. Donc j'écoute uniquement les choses de mon oreille gauche, mais par l'absolution du prêtre, au moment où je reçois l'absolution du prêtre, quand le prêtre me dit « Je vous absous de vos péchés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit », il me recolle l'oreille droite et du coup, je peux entendre les choses du bon Dieu. Je peux comprendre les choses du bon Dieu. N'oublions pas qu'il y a un lien entre l'oreille et le cerveau. Il y a ce qu'on appelle le nerf auditif. Donc, de même qu'il y a un lien entre les yeux et le cerveau avec le nerf optique, et entre le nez et le cerveau par le nerf olfaltique. Et il y a un lien entre les oreilles et le cerveau par le nerf auditif, donc il va transmettre au cerveau les informations qui viennent par le sens de l'ouïe, comme les yeux vont transmettre au cerveau les informations qui viennent par la vision. Eh bien, il est évident que si on a on n'a qu'une seule oreille, on ne peut plus entendre vraiment ce qui se passe à l'extérieur parce qu'il manque une donnée. Et un exemple physique que j'utilise pour expliquer ça, c'est tout simple. J'ai quelqu'un qui n'a qu'un seul œil. Eh bien, il va voir, parce qu'il a un œil qui fonctionne, mais il ne va plus voir le relief. Il ne va plus voir le relief, pourquoi? Parce qu'il faut les deux yeux pour qu'il y ait l'apparition du relief. Les trois dimensions peuvent apparaître que quand on a deux yeux. On n'a qu'un seul œil, on voit des choses de façon plane. Eh bien, c'est la même chose dans la vie spirituelle. Donc, si je n'ai que l'oreille gauche qui me donne le son de cloche du monde, il manque quelque chose. Donc, il faut très vite que je me mette à genoux pour demander pardon pour ce que j'ai fait, pour que le bon Dieu, le prêtre, utilisant le pouvoir de Dieu, recolle l'oreille droite. Ayant recollé l'oreille droite, je peux entendre à ce moment-là les choses de Dieu, et les informations qui viennent du bon ange, du bon Dieu, vont contrebalancer le poids des choses qui viennent du monde. Sinon, ben, je me fais rouler et je suis les choses mondaines. Alors avançons, versets 55 à 58 du chapitre 26 de Saint Matthieu. En même temps, Jésus dit à la foule, « Vous êtes venus après, comme après un voleur armé d'épées, de bâtons, pour vous emparer de moi. Tous les jours, j'étais assis au milieu de vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas arrêté. Mais tout cela s'est fait afin que les prophètes ce que les prophètes ont écrit fût accompli. Alors, tous les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent. Mais ceux qui avaient arrêté Jésus le conduisit chez Caïphe, le grand prêtre, où les scribes et les anciens s'étaient rassemblés. Pierre le suivait de loin, jusqu'à la cour du grand prêtre, et étant entré, il s'assit avec les serviteurs pour voir la fin. » Là, vous avez cette phrase qui est certainement une des plus importantes de l'Évangile. « Alors tous les disciples abandonnèrent s'enfuir. Hein, » on dit que c'est le premier acte collégial de l'Église. Deuxième acte collégial, c'était Vatican II, c'était pas plus bruyant. Donc là, tous les apôtres, comme un seul homme, abandonnèrent notre Seigneur. Ça laisse rêveur, hein. Voilà, 12 personnes, donc, qui avaient vu notre Seigneur Jésus-Christ faire tous ces miracles, qui avaient vu l'accomplissement de toutes les prophéties, qui avaient vécu dans l'intimité de notre Seigneur Jésus-Christ pendant 3 ans, mais s'enfuient tous, comme des lapins. Alors, posons-nous la question, si moi j'avais été là, qu'est-ce que j'aurais fait? Rappelez-vous cet exemple historique que j'ai déjà souvent cité. Alors, je m'excuse si je répète parfois les mêmes exemples, parce que je ne sais jamais si j'ai donné les exemples dans un sermon, si j'ai donné les exemples dans le cours de Saint Thomas ou dans le cours d'exégèse. Donc, parfois, je me répète. Mais c'est un exemple qu'on a dans la vie de Saint Rémy, l'évêque. L'extraordinaire évêque de Reims, donc, qui a formé Clovis, le roi de France, qui va baptiser, avec son propre baptême, va baptiser la France, et le baptême de la France, c'est le baptême de Clovis, hein, en 496, 25 décembre 496, donc, Saint Rémy a donné du catéchisme au roi Clovis, qui venait régulièrement. Je ne sais pas s'il venait seul, s'il venait avec ses soldats, ça je ne sais pas. Mais il venait écouter l'enseignement de Saint-Rémy qui lui faisait son catéchisme pour être sûr qu'il ait les connaissances nécessaires avant d'être baptisé. Et quand il est arrivé à expliquer à Clovis, donc il était assis devant lui, l'histoire de la passion de notre Seigneur, et quand il lui explique cette phrase, tous les disciples alors l'abandonnèrent, s'enfuirent, et abandonnant s'enfuir, Clovis s'est levé d'un bond, a tapé le poing sur la table et a dit « Que n'ai-je été là avec mes francs ?» Oui. Et c'est bizarre parce qu'on a la même réaction. C'est très amusant d'expliquer ces passages-là à des enfants. Et quand les enfants entendent cette phrase, alors tous les disciples abandonnant s'enfuir, très souvent ils disent la même chose. C'est très bizarre. Ils nous disent « Mais monsieur Lebi, moi si j'avais été là, je ne me serais pas sauvé. » Alors on fait réfléchir les enfants. Oui. Et on leur dit, mais regardez, est-ce que vous êtes plus grand que Saint-Pierre? Est-ce que vous êtes plus grand que Saint-Jacques ou Saint-Philippe ou Saint-Jean ou Saint-Bartholomé? Et puis ils réfléchissent. Et puis je leur dis, si Saint-Pierre s'est sauvé, alors qu'il était préposé à devenir le premier pape. Si tous les apôtres qui avaient vu tous les miracles de notre Seigneur avaient vécu dans son intimité pendant 3 ans, s'ils sont tous sauvés comme des lapins, finalement, qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Et je vois l'enfant qui réagit, qui réfléchit, et finalement, en général, l'enfant me dit, c'est l'abbé, je crois que finalement, je me serais sauvé aussi. Peut-être même que j'aurais couru plus vite encore que Saint-Pierre. Alors là, ils ont compris. Donc, passons à la page 14 du polycopier. Donc, posons-nous cette question, hein, à propos du verset 56. Qu'est-ce que j'aurais fait, moi ? Est-ce que je me serais battu pour notre Seigneur ? Ou est-ce qu'au contraire, est-ce que je me serais sauvé aussi, moi aussi, comme un traître, comme un lâche ? Et les pères nous disent, c'est ce que nous voyons encore se renouveler dans ceux qui promettent d'exécuter de grandes choses pour l'amour de Dieu et qui n'en accomplissent aucune. Cependant, ils ne doivent pas désespérer, mais se relever avec les apôtres et se renouveler par le repentir. Vous voyez, ces passages nous aident à comprendre que les apôtres étaient des hommes comme nous. Il ne faut pas imaginer les apôtres comme des espèces d'extraterrestres, si vous voulez, des gens qui planaient au-dessus de la terre. Les apôtres étaient des hommes, comme vous et moi. Des pauvres hommes, ignorants comme vous et moi, des pécheurs, tout simple. Le bon Dieu n'est pas allé chercher des polytechniciens, des grands ingénieurs, il est allé chercher des pécheurs. Pécheurs qui pêchent, dans le sens de pêcheurs qui pêchent à la ligne, qui pêchent au poisson. Des gens qui n'avaient pas beaucoup d'éducation, c'est eux qu'il est allé chercher. Et il nous montre, il nous prouve qu'ils sont des hommes, justement par la chute de tous les apôtres. Tous s'enfuirent. Mais en même temps, il nous montre la toute-puissance de la grâce de Dieu quand il montre que tous ces hommes vont tous revenir, les uns après les autres, ils vont revenir vers notre Seigneur Jésus-Christ. Et alors qu'ils ont été lâches au soir du Jeudi Saint, ils vont devenir très grands après dans leur vie de tous les jours. Et tous les apôtres ont fini glorieusement leur vie par le martyr, sauf Saint Jean qui est mort dans son lit. Sauf évidemment aussi Judas qui malheureusement... Lui n'est pas revenu, il y a un seul qui n'est pas revenu, c'est Judas. Ouais. Et là encore une fois, il faut méditer sur ce passage. Pourquoi est-ce que Judas n'est pas revenu ? Pourquoi est-ce que bon Dieu a voulu que tous reviennent, mais il n'a pas donné à Judas les grâces efficaces dont il avait besoin, et Judas n'est pas revenu. Pourquoi ? Eh bien peut-être pour nous faire comprendre justement qu'il n'y a pas d'égalité devant Dieu, que chaque âme est différente. Et que chaque âme, tout en reconnaissant la toute-puissance de la grâce du bon Dieu, chaque âme est libre d'accepter ou de refuser cette grâce du bon Dieu. Ça, c'est certainement le plus grand mystère du christianisme. Le plus grand mystère du christianisme, comment, si vous voulez mettre ensemble ces deux faits, la toute-puissance du bon Dieu et le libre arbitre de l'homme. La grâce est toute-puissante, la grâce peut tout en nous, je puis tout en celui qui me sanctifie, mais en même temps, cette grâce, tout en restant toute-puissante, respecte le libre arbitre de l'homme. Comment peut-on associer ces deux choses ? Ça, c'est le mystère. Alors, si on ne fait pas attention, justement, à s'humilier devant ce mystère, on tombe dans une espèce de fatalisme qui est extrêmement dangereux. Comme les musulmans qui avaient toujours cette phrase à la bouche, c'est écrit, voilà. Donc, telle chose se passe, c'est écrit. Les musulmans sont des fatalistes de façon plénière, c'est épouvantable pour un musulman, tout écrit par avance. Donc par avance, en quelque sorte, Dieu mène quelques-uns au ciel et mène quelques personnes en enfer. Alors qu'en fait, Dieu ne mène personne en enfer. Il mène des gens au ciel, pas en enfer. Mais il laisse libre les gens qui volontairement refusent sa grâce pour vouloir tomber en enfer. Et pourtant, il pourrait nous prévenir. Et il nous a prévenus. 63 fois dans l'évangile, il a parlé de l'enfer. 63 fois. Il en a parlé deux fois, ce serait suffisant. Il en a parlé 63 fois. Et il nous laisse libres. Tel point que les modernistes, évidemment, s'arrachent les cheveux devant des textes comme ça, ils ne comprennent plus rien. Ils disent, mais comment se fait-il ? Comment est-ce possible qu'un Dieu aimant, qui aime ses créatures, puisse laisser une créature tombe en enfer. Monsieur l'abbé, vous racontez n'importe quoi, c'est pas possible. Au moment de la mort, Dieu ouvre tout grand les portes de son sacré cœur, se propose à l'âme qui est un grand pécheur, qui arrive devant lui au moment du jugement, et lui ouvre les portes du sacré cœur, est-ce que tu veux venir avec moi au paradis? Et la personne tombe à genoux devant ton Seigneur Jésus-Christ, bon Dieu pardonne tout, et hop, tu vas au paradis, alléluia. C'est pas comme ça que ça se passe. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ a dit « Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. » Large est la porte qui mène à la perdition, étroite et resserrée la voie qui mène à la vie éternelle. Souris. Pourquoi qui dit tout ça? Ce qu'on appelle le petit nombre relatif des élus. Donc, oui, je pense que la méditation de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ doit nous aider justement à pratiquer cette vertu d'humilité. Sans notre Seigneur Jésus-Christ, je serais pas mieux que les apôtres. Hein. Donc, Rabbi Amor explique le sens mystique de ce passage que nous méditons, de même que Pierre, qui a lavé la tache de son reniement dans les larmes du repentir, figure le retour de ceux qui succombent dans l'épreuve des martyrs. Ainsi, les autres disciples qui s'enfuient enseignent à ceux qui ne se sentent pas assez forts pour affronter les supplices de chercher prudemment leur salut dans la fuite. Et c'est pour ça que dans l'ancien temps, au début de l'histoire de l'Église, au moment des grandes persécutions, donc de 67 à 313, l'Église interdisait aux catholiques d'aller se présenter aux persécuteurs. Hein. Vous allez vous cacher. Si vous êtes pris, mon Dieu vous donnera la grâce. Vous allez vous cacher et vous n'allez pas jouer les matamores en vous présentant par vous-même devant les persécuteurs. Parce que si mon Dieu ne vous donne pas cette grâce, et bien vous allez mourir apostat. Et ça c'est arrivé malheureusement à certains qui se sont crus très très forts. Ils ont vu les grands martyrs qui souffraient des choses épouvantables pour notre Seigneur Jésus-Christ. On dit, ah, moi je fais de même. Ils allaient se présenter volontairement aux persécuteurs. Et puis certains ont failli dans la foi. Et on appelait ces gens-là les lapsis, les tombés. Et c'était tellement grave qu'il y a même certains prêtres. C'était un évêque même qui ne voulait pas absoudre les lapsis. Il était tombé en disant, non, c'est fini, ils sont en dehors de l'Église. C'était une des graves erreurs de Tertullien. C'est pour ça que Tertullien, le plus grand docteur de l'Église, un des plus grands pères de l'Église, n'est pas canonisé. Il n'y a que deux pères de l'Église qui ne sont pas canonisés. Il y a Tertullien et Origène. Et Tertullien, entre autres, parce qu'il est tombé dans une espèce de rigorisme qu'on appelait le donatisme, par lequel, justement, il pensait qu'on ne pouvait pas pardonner à ceux qui étaient tombés, lui-même jusqu'à dire qu'il fallait rebaptiser ces gens-là. Et l'Église enseigne, attention, ces gens, le baptême, avant d'être tombés dans les persécutions, ils avaient une baptême, donc ils ont le caractère du baptême, et ce caractère reste sur l'âme. Donc, quelqu'un qui a abandonné notre Seigneur Jésus-Christ, par crainte des tortures, si vous voulez, qui revient se confesser pour accuser sa faute contre la foi, il doit être pardonné. Et il faut mettre cela, nous enseigner l'importance de la vertu d'humilité. Qui suis-je sans la grâce du bon Dieu? Avec la grâce du bon Dieu, je peux devenir quelqu'un d'extraordinaire, mais sans sa grâce, je suis capable de faire des bêtises énormes. Rappelez-vous cette phrase que j'aime beaucoup de Saint Philippe Néré qui disait toujours Seigneur, Seigneur, tous les matins, il disait Seigneur, Seigneur, gardez Philippe entre vos mains parce que sans votre grâce, d'ici ce soir, je suis suffisamment bête pour me faire musulman. Certains disent, ils disaient même, je suis suffisamment bête pour me faire juif. Et sans la grâce du bon Dieu, ben, tout est possible. Alors, pourquoi est-ce que Saint-Pierre suit simplement de loin? Eh bien, donc, si vous voulez, ils vont emmener notre Seigneur Jésus-Christ, la foule va prendre notre Seigneur Jésus-Christ. D'après certains pères, la foule représentait presque 1000 personnes, c'est une grosse foule. Donc, les 1000 personnes vont revenir vers les autorités politiques juives et enchaîner notre Seigneur Jésus-Christ et vont le ramener, ils commencent déjà à lui taper dessus, à l'abreuver d'injures. Et de loin, il y a Saint-Pierre et Saint-Jean qui vont suivre. Donc quand l'Église nous dit, quand le texte sacré nous dit « Alors tous s'enfuirent », donc au verset 56, « Alors tous les disciples abandonnant s'enfuirent », donc c'est vrai, mais en fait Saint-Jean et Saint-Pierre qui sont d'abord enfuis vont rester pas trop loin et vont suivre de loin, avec prudence, pour voir ce qui va se passer. Au milieu de la page 14, donc, il y a une petite note des pères. Là, la foule était composée de 1000 soldats et de plusieurs secrétaires et serviteurs du grand prêtre. Donc il y avait tout, il y avait des juifs, il y avait sans doute des soldats romains peut-être aussi qui étaient là, la foule qui était là, des gens du peuple, et un peu tout, en tout une foule d'à peu près 1000 personnes. Pierre ne suivait notre Seigneur que de loin parce qu'il devait bientôt le trahir. Il n'aurait jamais pu renier son souffrance, son Seigneur, s'il fût toujours resté près de lui. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire tout simplement que si moi aussi je m'éloigne de notre Seigneur Jésus-Christ, je vais faire comme Saint-Pierre et je vais renier notre Seigneur Jésus-Christ. Donc attention à bien rester près de notre Seigneur Jésus-Christ, comme dans une grande foule, un enfant reste près de sa mère, parce qu'il sait que tant qu'il tient la main de sa mère, il est protégé, mais s'il la lâche, il va se perdre dans la foule et ne saura plus retrouver sa mère. Donc, Saint-Pierre n'aurait jamais pu renier son Seigneur s'il fût resté toujours près de lui. Nous y voyons encore que l'Église doit suivre, c'est-à-dire imiter les souffrances du Seigneur, mais d'une manière bien différente, car l'Église souffre par elle-même, tandis que le Sauveur souffre pour l'Église. Alors, il y a certaines notes ici des pères qui sont intéressantes. Donc, on vient arrêter le Christ pendant la nuit, car il est la lumière du monde. Il a ouvertement enseigné la lumière de la vérité pendant la lumière du jour. N'oubliez pas qu'un des signes de reconnaissance du démon, c'est l'obscurité. La tristesse d'abord, puis l'obscurité. La tristesse, l'obscurité, la confusion et l'attraction vers les choses laides. Ça, c'est les quatre signes de reconnaissance du démon. Vous voyez? C'est tout la tristesse. Mais immédiatement, si on accepte la tristesse va entraîner tout de suite l'obscurité de l'âme, ce qu'on appelle la cécité intellectuelle. Cécité de l'intelligence. L'intelligence qui n'est plus capable d'atteindre sa fin, d'atteindre son but. Les enfants des ténèbres s'éloignent de la lumière aimant l'obscurité et donc ne le saisissent que pendant la nuit. Les enfants des ténèbres se précipitent contre la véritable lumière et malgré l'usage des torches et des lanternes ne peuvent éviter l'obscurité de l'incrédulité parce qu'ils ne connaissent pas l'auteur de la lumière. Donc cette cécité intellectuelle, cette cécité de l'âme, tout simplement, cette cécité spirituelle représente l'incrédulité, le manque de foi, l'infidélité. Ça présente aussi l'ignorance, ça présente toutes ces choses-là. Le péché en général, de toute façon. Mais l'obscurité représente ce nuage noir qui arrive sur une âme qui ne voit plus rien. Qui ne voit plus rien. Donc attention à cette cécité intellectuelle qui est un châtiment de l'orgueil. Lorsque une âme tombe dans l'orgueil, le bon Dieu permet que cette âme soit châtiée justement par cet aveuglement de l'intelligence, aveuglement de l'esprit, on voit ça très souvent. C'est très triste, moi j'ai souvent rencontré des gens comme ça, des gens qui ont pourtant une intelligence largement supérieure à la moyenne, on essaye de leur expliquer certaines choses, mais ils ne comprennent rien, ils sont incapables de comprendre quoi que ce soit des choses spirituelles, parce qu'ils sont tellement englués dans les choses de la terre qu'ils ne comprennent plus les choses spirituelles, parce que c'est comme un oiseau qui essaie de voler mais qui a filé à la patte. Ce fil à la patte empêche l'oiseau de voler. Il faut d'abord couper ce fil à la patte. Et le fil à la patte, c'est la volonté propre. Donc l'humilité est la première chose qu'il faut pratiquer, première vertu qu'il faut pratiquer, pouvoir s'élever vers le soleil. Ce soleil, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, donc qui est la lumière de vérité. Donc n'oublions pas qu'il n'y a que deux choix, ou la lumière ou les ténèbres, ou notre Seigneur Jésus-Christ ou le monde. Deux amours ont fait deux cités, dit saint Augustin. Rappelez-vous cette phrase magnifique de la cité de Dieu. Deux amours ont fait deux cités. L'amour de soi-même jusqu'au mépris de Dieu a fait la cité terrestre. L'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi-même a fait la cité céleste. Mais nul ne peut servir de maître à la fois. Des tas d'exemples dans l'histoire de l'Église, peut-être que l'exemple le plus saillant, c'est l'exemple des deux larrons, que nous verrons plus tard. Les deux larrons qui sont tous les deux à quelques mètres de notre Seigneur Jésus-Christ, un à sa droite, un à sa gauche, tous les deux sont des larrons, des bandits, des assassins, des voleurs, peut-être des violeurs, on ne sait pas. Ils ont tout fait de travers, tout fait de travers. Et bien, ils vont se convertir. Et par contre, si Saint Dismas ils vont pas se convertir tous les deux. Saint Dismas, seul le bon larron va se convertir, mais le mauvais larron, Gestas, lui, ne va pas se convertir. Pourtant, il était aussi près que son confrère de notre Seigneur Jésus-Christ. Et si notre Seigneur Jésus-Christ a donné des grâces spéciales à Saint Dismas, il aurait pu donner les mêmes grâces à Gestas. Il y aurait deux saints, il y aurait Saint Dismas et Saint Gestas aujourd'hui, et que Saint Dismas, c'est tout. Pensez à tous ces gens qui ne se sont pas convertis. même en visualisant tous les miracles de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a eu Saint Longin qui a plongé sa lance dans le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ après la mort de notre Seigneur Jésus-Christ le vendredi saint et s'est converti. Mais le centurion donc s'est converti, mais les autres soldats qui étaient là apparemment ne se sont pas convertis. Il y a certains juifs qui, en voyant la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, en voyant les signes extraordinaires qui vont apparaître dans les entrailles de la terre, il y aura un tremblement de terre, les roches qui s'ouvrent, les rochers qui se fendent, les corps de ceux qui étaient morts récemment vont sortir de terre, des tombeaux, et donc ils se frappent la poitrine en réalisant qu'ils viennent de tuer un Dieu, de tuer un homme Dieu. Vous voyez ? On voit ça avec tous les saints. On voit par exemple très bien ça aussi avec Sainte Jeanne d'Arc. Sainte Jeanne d'Arc, il y en a qui ont cru à sa mission, qui l'ont suivi, puis il y en a qui ne l'ont pas cru. Et tous ceux qui ont suivi Sainte Jeanne d'Arc dans son équipe rapprochée, en quelque sorte, qui ont tout de suite vu, avec la grâce du bon Dieu, le travail de la grâce dans l'âme de cette jeune fille de 17 ans, qui les mène à la victoire contre les Anglais, mais il y en a d'autres qui ne vont rien. Regardez l'évêque de Beauvais, Cochon. Portez bien son nom, celui-là. Mais Cochon ne va pas se convertir. Pourtant, il entend toutes les réponses extraordinaires, manifestement menées par le Saint-Esprit. Il entend les réponses de Sainte-Jeanne d'Arc qui évite tous les pièges des assesseurs. Mais Monseigneur Cochon ne va pas se convertir. Par contre, il y a des Anglais qui vont se convertir. Et au moment où Sainte-Jeanne d'Arc meurt brûlée vive, au moment où apparemment tout est perdu, eh bien certains Anglais se sont relevés à ce moment-là. On a brûlé une sainte. Et certains sont convertis. Allez. Avançons, page 14, avec les versets 59 à 68. Cependant, les princes des prêtres et tout le conseil cherchaient un faux témoignage contre Jésus pour le faire mourir. Et ils n'en trouvèrent point, quoique beaucoup de faux témoins se fussent présentés. Enfin, il vint deux faux témoins. Qui dirent, celui-ci a dit, je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir. En 3 jours. Alors le grand prêtre se levant lui dit, vous ne répondez rien de ce que ces hommes déposent contre vous. Mais Jésus se taisait. Et le grand prêtre lui dit, je vous adjure, par le Dieu vivant, de nous dire si vous êtes le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui répondit, vous l'avez dit, car je vous l'ai dit désormais. Vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu venant sous les nuées du ciel. Alors le grand prêtre déchira ses vêtements en disant, il a blasphémé. Qu'avons-nous encore à faire de témoin? Voici ce que vous venez d'entendre, le blasphème. Que vous en semble? Ils répondirent, il mérite la mort. Alors ils lui crachèrent au visage, ils le frappèrent à coups de poing. D'autres lui donnèrent des soufflets en disant, prophétisez-nous, Christ, qui est-ce qui vous a frappé? Nous avons encore là, au verset 63, une de ces phrases lapidaires tellement importantes. Je vous ai déjà cité il y a quelques minutes, donc la phrase « Alors tous les disciples s'enfuirent ». Une autre phrase très, très importante, « Jésus se taisait ».« Jésus autem tachebat ». Notre Seigneur aurait pu parler, convertir tous ses ennemis, envoyer encore une fois, demander à son Père une douzaine de légions d'anges et envoyer tout le monde en enfer. Eh bien, il ne le fait pas. Il se tait. Les Pères de l'Église expliquent que notre Seigneur se tait pour rattraper aussi tous les péchés que nous avons commis avec la langue. Péchés traditionnels des catholiques traditionnels, péchés de la langue. Les calomnies, les médisances, les susurrations, les jugements téméraires, les accusations sans fondement. Combien de fois on raconte n'importe quoi sur les réseaux sociaux, sur Internet, on diffuse des choses, on ne cherche pas à vérifier, on rattrape rien après les calomnies dites. Jésus se taisait. Combien de fois il faudrait que je me taise moi aussi? C'est bien plus difficile de se taire que de parler, hein, surtout quand on est provoqué. Quelqu'un qui sait se taire quand il faut, quelqu'un qui aura beaucoup plus de facilité de rester en état de grâce. Intéressant de voir que notre Seigneur Jésus-Christ va provoquer sa mise à mort, sa condamnation à mort par cette phrase qu'on a au verset 64. Il va répondre à la question du grand prêtre. « Je vous adjure par le Dieu vivant de nous dire si vous êtes le Christ, le Fils de Dieu. » Et Jésus lui répondit, « Vous l'avez dit, oui, je suis le Fils de Dieu, et je vous le dis. Désormais, vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance des dieux et venant sur les nuées du ciel. » Alors, c'est l'éclatement de la haine. Il s'est dit Fils de Dieu, il a blasphémé, il mérite la mort, à mort. On peut mettre en parallèle ce texte avec un autre texte. En fait, c'est un texte que j'ai lu ce matin, puisque j'enregistre ce cours le samedi 3 août, et c'est la fête de Saint-Étienne, l'invention de Saint-Étienne, du corps de Saint-Étienne. Saint-Étienne a été lapidé, vous le savez, et donc ils prennent, les Juifs vont attraper Saint-Étienne, vont le provoquer, ils discutaient avec lui, ils ne pouvaient pas résister, dit le texte des Actes des Apôtres, aux Actes des Apôtres, chapitre 6, ils discutaient avec lui et ne pouvaient pas résister à la sagesse et à l'esprit qui parlait en lui. C'est là où on voit la mauvaise volonté des Juifs. Donc ils entendent, ils reconnaissent qu'il y a une sagesse, une autorité qui parlait par lui. Mais en entendant ces paroles, au lieu de se convertir, ils frémissaient de rage dans leur cœur et grinçant des dents contre lui. Et c'est Saint-Étienne, le premier martyr, donc, qui va littéralement provoquer sa condamnation à mort. Voilà ce que dit le texte. Lui, Saint-Étienne, rempli qu'il était de l'Esprit Saint, leva les yeux au ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici que je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Donc il est Dieu. Alors poussant de grands cris, se bouchèrent les oreilles, se précipitèrent tous ensemble sur lui et l'ayant entraîné hors de la ville, ils le lapidèrent. C'est un peu le même texte ici. Et Saint-Étienne dit, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Et ici, verset 64, je vous le dis, désormais vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu venant sur les nuées du ciel. Et dans les deux cas, ça a provoqué le déferlement de la haine des Juifs contre notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ils vont le condamner à mort. Encore une fois, cela doit nous laisser rêveurs. Que sommes-nous sans notre Seigneur Jésus-Christ? En bas de la page 14, détruisez vous-même ce temple. Leur dit-il, ce n'est pas moi qui le détruirai. En effet, il ne nous a pas permis de nous donner la mort. Ils ajoutent ensuite, et après 3 jours, je le rebâtirai. De manière que ces paroles parurent se reporter directement au temple de Jérusalem, tandis que le Sauveur, pour montrer qu'il voulait parler d'un temple vivant et animé, avait dit « Dans 3 jours, je le ressusciterai, car rebâtir n'est pas la même chose que ressusciter. » Pourquoi ? Parce que les faux témoins avaient dit, accusant notre Seigneur de Jésus-Christ, il a dit, je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. Et en fait, ce que voulait dire notre Seigneur Jésus-Christ, c'est que dans 3 jours, je ressusciterai. Vous me tuerez, vous allez me condamner à mort, vous allez m'écarteler sur la croix, vous allez me tuer. Mais 3 jours après, je ressusciterai d'entre les morts. Je le rebâtirai dans 3 jours. Mais notre Seigneur Jésus-Christ signifiait une résurrection. Notre Seigneur Jésus-Christ est ressuscité dans son corps le 3e jour, le jour de Pâques. Et c'est ça qui va provoquer sa mise à mort. Les Juifs n'ont pas supporté le fait que notre Seigneur Jésus-Christ se dise Dieu. Vous êtes le Fils de Dieu, le Fils de Dieu béni. Notre Seigneur le dit là expressément, vous l'avez dit, je suis le Christ, le Fils de Dieu, c'est ce qu'il dit. Quand on l'accuse, est-ce que vous êtes le Christ, le Fils de Dieu, qui répond, vous l'avez dit, ça veut dire, j'acquiesce, je suis le Christ, le Fils de Dieu. Alors que notre Seigneur Jésus-Christ avait prouvé justement sa divinité par tous ses miracles et l'accomplissement de toutes les prophéties, il savait très bien que le Fils de Dieu allait venir, le Messie allait venir, le Messie, le Messiah, c'était le Fils de Dieu. Et il arrive, au lieu de le reconnaître, il le rejette. Vous voyez ? Là encore, c'est un très grand mystère qu'il est très difficile de comprendre. Souvent, les gens me demandent, mais monsieur l'abbé, est-ce qu'on a le droit de dire que le Dieu des juifs et le Dieu des gens et le Dieu des chrétiens, c'est le même? C'est assez difficile de répondre. Parce qu'en fait, c'est vrai et c'est pas vrai. Il faut répondre que le Dieu des juifs, le Dieu actuel des juifs, exactement, le Dieu, il faut répondre comme ça, précisant bien les termes, faire attention à ce qu'on dit, pas dire bêtises. Le Dieu que les Juifs vénéraient dans l'Ancien Testament est le même Dieu que les chrétiens vénèrent dans l'Ancien Testament. Quand je lis l'histoire des Juifs dans l'Ancien Testament, dans le livre de la Genèse par exemple, dans le livre de l'Exode, dans toutes les grands textes par exemple du roi David, Livre des Rois, etc. On voit l'action de Dieu avec les Hébreux. C'est le même Dieu qui descend entre mes doigts à chaque fois que je célèbre la messe ce matin. Le même Dieu. Donc le Dieu que vénéraient les Juifs dans l'Ancien Testament est le même Dieu que j'adore aujourd'hui et qui descend sur l'autel tous les jours. Alors quand on explique ça, les gens vont dire « Alors donc, les Juifs et les catholiques ont le même Dieu ?» Ah non, justement. Parce que ce Dieu fait homme. Ce Dieu, le Dieu de l'Ancien Testament, qui est le vrai Dieu, prépare justement l'arrivée du mystère de l'incarnation. Et lorsque les temps furent accomplis, ce Dieu, le Dieu de l'Ancien Testament, qui est le véritable Dieu, va s'unir à l'humanité par le mystère de l'incarnation. Il va envoyer l'ange Gabriel qui va annoncer à la très sainte Vierge Marie qu'elle va devenir la mère du Sauveur. Et après 30 ans de vie cachée, notre Seigneur Jésus-Christ va publiquement prêcher. Donc ce Dieu qu'attendent les Juifs, c'est le Dieu qui va avoir 3 ans de vie publique après 30 ans de vie cachée. Mais là, ils ne le reconnaissent plus. Certes, il y a eu des contre-conversions, heureusement, mais la plupart des gens du peuple juif ont refusé ce Messie, parce qu'ils attendaient un Messie politique, ils attendaient un Messie triomphant, un Messie glorieux. Ils ont eu un Messie douloureux. Ça, ils n'ont pas supporté. Ils n'ont pas pu supporter de voir que leur Messie était crucifié sur une croix. Ça, ils ne pouvaient pas. Et donc, pour revenir à notre question, savoir si le Dieu des Juifs et le Dieu des chrétiens est le même Dieu, le Dieu de l'Ancien Testament est le véritable Dieu. Seulement, à partir du moment où ils ont crucifié notre Seigneur Jésus-Christ, ils ont nié la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Les Juifs d'aujourd'hui, qui nient toujours, à la suite des Juifs de l'Ancien du temps de notre Seigneur, qui nient la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, nient la divinité du vrai Dieu, puisque notre Seigneur Jésus-Christ est le vrai Dieu. Pour reprendre l'exemple que je viens de vous donner, ce Dieu qui descend entre mes doigts à chaque messe, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Ce Dieu que j'adore, les Juifs d'aujourd'hui le haïssent. Et s'ils pouvaient le recrucifier, ils le recrucifieraient. Donc, le Dieu qu'adorent aujourd'hui les Juifs n'est pas le vrai Dieu, puisqu'ils refusent notre Seigneur Jésus-Christ. Et ils attendent un Messie à venir qui ne viendra jamais parce qu'il est déjà venu. Il viendra à la fin des temps pour juger les vivants et les morts. C'est pour ça qu'il est tellement difficile de convertir un juif. Tellement difficile de convertir un juif parce que justement, ils vivent dans une attente de quelque chose qui n'arrivera jamais. Ils ont tellement été contaminés par toutes les erreurs de la Torah, du Talmud et toutes ces choses-là, par les racontars et les bêtises des rabbins, eh bien qu'ils ont complètement oublié tout ce qu'avait annoncé notre Seigneur Jésus-Christ. Il avait annoncé. Il a été annoncé qu'il viendrait, qu'il serait, c'est la prophétie de Michée, qu'il allait naître d'une vierge, qu'il allait être crucifié. Le roi David a même précisé qu'il aurait ses mains, ses pieds crucifiés, percés. Donc tout ça est arrivé. Malheureusement, les Juifs le refusent. C'est pour ça qu'il faut beaucoup, beaucoup prier pour les Juifs. Mais on n'a pas le droit de dire, ça c'est complètement faux, on n'a absolument pas le droit de dire que le Dieu des Juifs est le Dieu des chrétiens, le même Dieu. Bien sûr, encore pire, on n'a pas le droit de dire que le Dieu des musulmans, le Dieu des chrétiens est le même Dieu, puisque les musulmans rejettent la Sainte Trinité. Rejetant la Sainte Trinité, ils rejettent Dieu, évidemment. Donc attention à ces choses-là. Alors, faites attention quand on entend parler, par exemple, des trois religions monothéistes. On a l'impression dans le monde moderne qu'il y a trois grandes religions qui toutes adorent le même Dieu, les musulmans, les chrétiens et les juifs. Ah, attendez, les chrétiens adorent le vrai Dieu, enfin, exactement, les catholiques adorent le vrai Dieu, mais les musulmans, les juifs n'adorent pas le vrai Dieu. Parce que le vrai Dieu, ils l'ont crucifié pour les juifs, et le vrai Dieu, les musulmans ne l'acceptent pas. Alors, passons à la page 15, donc sur le polycopier. Donc, la figure qu'annonce notre Seigneur Jésus-Christ ici, donc, je vous le dis désormais, verset 64, vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu venant sur les nuées du ciel. Cette figure, disent les pères, page 15, par laquelle notre Seigneur Jésus-Christ se représente assis, paraît signifier une royauté fermement établie. Souvent, on représente la royauté comme une royauté d'autorité, et comme symbole de cette autorité, justement, c'est le roi qui est assis avec le glaive de la justice, avec le globe du monde dans ses mains, ou avec l'épée de la justice, le sceptre de la justice, ça dépend un petit peu des différentes figures. Et cette position assise qui représente la royauté fortement établie du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc le Fils de l'homme, c'est Dieu fait homme. Le Fils de l'homme est assis à la droite de la puissance de Dieu. Donc, comme il est assis à la droite de Dieu le Père, ça montre qu'il est le même niveau de divinité. Il n'y a pas trois dieux et qu'un seul Dieu. Un Dieu en trois personnes, égal et distinct. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Mais le Père n'est pas le Fils, n'est pas le Saint-Esprit. Un très grand mystère, le mystère de la Sainte Trinité. En effet, c'est par la puissance de Dieu qui seule est la véritable puissance qu'a été fondé le trône de Jésus qui a reçu de Dieu le Père toute puissance dans le ciel et sur la terre. Or, il viendra un temps où ses ennemis seront témoins de l'affermissement de son trône. Et cette prédiction a reçu un commencement à l'exécution dans le temps même de l'incarnation du Sauveur, alors que ses disciples virent ressuscité d'entre les morts et solidement établi à la droite de la puissance divine. On voit la même image dans la transfiguration devant Saint-Pierre, Saint-Jacques et Saint-Jean. Notre Seigneur Jésus-Christ est transfiguré. Sa face devient plus brillante que le soleil, et ses vêtements deviennent aussi blancs que le vêtement le plus propre. Et puis on entend cette voix qui vient du ciel, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis mes complaisances, écoutez-le. Donc on voit la Sainte Trinité, la théophanie, la Sainte Trinité, Dieu le Père qui parle, notre Seigneur Jésus-Christ, et la colombe qui va représenter le Saint-Esprit. En déchirant ses vêtements, donc le texte nous dit que le grand prêtre déchira ses vêtements. En déchirant ses vêtements, le grand prêtre déclare que les Juifs ont notre Seigneur, par cette déchirure des vêtements du grand prêtre, déclare que les Juifs ont alors perdu la gloire du sacerdoce et que le siège de leur pontife est désormais vide. Un état de ces vacances là. C'est par cette action qui déchire aussi le voile qui recouvrait la loi. Donc, les pères, c'est beau, ça comme image, vont associer ce verset. Alors, le grand prêtre déchira ses vêtements avec un autre verset qu'on va voir plus loin. Le voile du temple qui se déchire en deux après la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans les deux cas, c'est la même signification. Le voile du temple qui séparait le Saint des Saints de l'autre partie du vestibule, si vous voulez, du temple lui-même. Ce voile qui se déchire représente la fin de l'Ancien Testament. C'est la fin de l'Ancien Testament, nous sommes maintenant dans le Nouveau Testament. La loi de la grâce remplace la loi de la crainte. Eh bien, c'est la même action ici. En déchirant son vêtement, le grand prêtre qui représentait le Lévite de l'Ancien Testament, donc des prêtres qui n'avaient pas de sacerdoce, eh bien, en déchirant ses vêtements, notre Seigneur Jésus-Christ montre que ce sacerdoce lévitique est terminé. Et il va être remplacé par un nouveau sacerdoce. Le sacerdoce que notre Seigneur Jésus-Christ a donné à ses disciples jeudi soir, jeudi saint au soir. C'est le sacerdoce divin, le sacerdoce, le véritable sacerdoce. Donc les rabbins juifs ne sont pas des prêtres. Nous sommes prêtres, nous prêtres catholiques, nous avons ce caractère extraordinaire que le bon Dieu nous a donné malgré notre indignité. Et c'est ce, justement ce, ce, ce déchirement des vêtements du grand prêtre montre que ce, le sacerdoce de l'Ancien Testament est définitivement déchu. Alors, ils lui crachèrent au visage, dit le verset 67, ils le frappèrent à coups de poing, d'autres lui donnèrent des soufflets. Ceux qui lui crachent au visage représentent ceux qui rejettent la présence de sa grâce, le symbole de tous les hérétiques. Il est encore frappé à coups de poing par ceux qui lui préfèrent leur propre gloire. Et ceux qui lui donnent des soufflets sont ceux que la perfidie aveugle qui nie sa venue et qui voudrait repousser et détruire sa présence sur la terre. Donc cette perfidie aveugle, donc ces soufflets représentent la perfidie aveugle qui nie sa venue. L'univers entier devrait frémir de savoir que le Seigneur de gloire est giflé par la main impie de l'homme. Je crois que c'est Staline, parce que j'ai lu ça il n'y a pas longtemps, je crois que c'est Staline qui aurait dit « Trois fois j'ai rencontré le Christ et trois fois je l'ai giflé. » Ça laisse rêveur. C'est incroyable de voir que cette main n'a pas été desséchée sur place, cette main qui a giflé le, notre Seigneur Jésus-Christ, que la terre ne soit pas, entrouverte pour avaler cet homme tout vivant. Vous voyez la, cette partie de l'évangile, alors il lui crachait au visage, il le frappait à coups de poing, d'autres lui donnèrent des soufflets. Et le grand prêtre gifle, ou un soldat gifle notre Seigneur. Créature qui gifle son Créateur. Oui. Vous avez déjà donné peut-être cet exemple de cette petite fille de 7-8 ans, d'une famille traditionnelle américaine. Et, à l'ouverture de l'école dominicaine à Post Falls, en Idaho, hier sur la côte, pas très loin de la côte pacifique des États-Unis, à frontière avec le Canada, donc les élèves dominicaines venaient d'ouvrir à. D'ouvrir à une école, et ils ont fait au début un état des enfants, donc voir un petit peu quel était leur niveau. Ils ont fait une petite interrogation à tous les enfants, et puis le lendemain, la professeure titulaire rend les copies aux enfants, et à une des petites, elle lui donne sa copie en disant c'est lamentable, c'est nul, il n'y a rien là-dedans, ça vaut un F, ça veut dire zéro. Et la petite fille de traditionnaliste, attention, mes bien chers frères qui m'écoutaient sur Internet, fille de famille catholique, s'est levée et montée sur sa chaise pour être à peu près à la même hauteur que la sœur, a toisé la sœur et lui a dit « Ma sœur, vous n'avez rien le droit de me dire, nous sommes égaux, nous sommes égales. » Les sœurs ont dû faire une réunion de parents après pour mettre les choses au clair. Et beaucoup de parents retiraient leurs enfants immédiatement de l'école parce qu'ils voulaient, disaient-ils, une école américaine. Et les sœurs ont dû leur expliquer, les sœurs dominicaines dans la tradition ont dû leur dire une école américaine, on ne sait pas. On va vous donner une école catholique, c'est tout ce qu'on sait faire. Vous voyez, mais on voit bien là les conséquences de l'orgueil. Vous voyez ? Conséquence de l'orgueil. Notre Seigneur Jésus-Christ qui est giflé par la main impie de l'homme. Et cette main, il faut visualiser la passion du Christ, mais il faut aussi personnaliser la passion du Christ. Hein. Cette main qui frappe notre Seigneur Jésus-Christ, qui aurait dû être desséchée sur place, littéralement par la justice divine, bien cette main qui donne des coups de poing, qui donne des soufflets, des gifles sur le visage sacré de notre Seigneur, cette bouche qui crache, sur le visage de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais bien, chers frères, c'est chacun d'entre nous, c'est vous et c'est moi aussi. Chaque fois que je commets une faute grave, malheureusement, à chaque fois, je crache sur le visage de notre Seigneur Jésus-Christ, je lui donne un coup de poing, je lui donne un soufflet. Hein, c'est comme pour la, on verra ça plus tard, pour la flagellation. Chaque fois que je commets un péché mortel, je m'approche du bourreau, je prends son fouet en disant, écoutez, je trouve que vous ne tapez pas assez fort, donnez-moi le fouet, je vais vous montrer comment on travaille. Il veut te frapper et on frappe nous-mêmes notre Seigneur Jésus-Christ. Donc rappelons-nous ce que provoque. Donc rappelons-nous et méditons sur cette phrase donc, qui est vraiment notre histoire. Hein, à chaque fois, encore une fois, à chaque fois que je crache, qu'on me dit que les Juifs ont craché sur notre Seigneur Jésus-Christ, l'ont frappé à coups de poing, lui ont donné des soufflets, ben, c'est moi qui crache, c'est moi qui frappe, qui donne des soufflets, c'est moi qui gifle notre Seigneur Jésus-Christ, parce que je participe à la passion de notre Seigneur Jésus-Christ à chaque fois que je commets un péché grave. Hein. Donc nous allons terminer par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous.